s'agit d'André Perronnet, qui est chroniqueur au magazine Blues Magazine. André, bonjour, bienvenue.
Bonjour Marc, bonjour. Ça va ?
Ça va très bien. Et toi, tu profites du beau temps, tout comme nous en Normandie, où es-tu exactement ?
Ben pour l'instant, moi je suis dans la banlieue parisienne, pas loin en fait du siège social de Blues Magazine, à Garges-lès-Gonesse exactement.
Tu es avec nous pour parler de Blues Magazine, donc tu sais que tu interviens en 7e position, c'est pas du tout dans un ordre de préférence, il va falloir bien choisir un ordre de date qui convienne à tout le monde, par rapport à une série d'interviews autour de la presse blues au départ, et puis que j'ai élargi à la presse musicale, hein. C'est vrai qu'on a reçu également des rédacteurs en chef comme Jukebox Magazine, qu'on s'est intéressé aussi à Crossroads, et Blues Magazine. Là, c'est une publication qui est destinée, on va dire, à 100% blues, hein.
Tout à fait, oui, 100% blues, qui voilà. Est une publication en fait trimestrielle, qui existe depuis 1995.
Alors 1995, ça fait déjà un certain nombre d'années, et c'est vrai que là, cette fois-ci, pour ce numéro 50, octobre, novembre, décembre, ça y est, hein, numéro 50, c'est fait. 50 numéros, est-ce que les créateurs de Blues Magazine pensaient en arriver là, en faisant publier le premier numéro de Blues Magazine?
Non, parce qu'en fait, le départ, c'est un passionné de deux musiciens qui travaillaient dans une école de guitare, la Rosas.
Oui, avec puis, Patrick Astor, il me semble.
Patrick Astor, hein. Et puis Pascal Duplessis, en fait.
Voilà.
Et puis, au départ, l'idée est venue de monter plutôt un petit fanzine, hein, qui s'est avéré très très vite devenir un magazine, tout simplement parce que... On pensait au sein de cette association qui a été créée en même temps que le blues n'était pas très connu en France.
Oui, et puis est-ce que le constat est toujours le même finalement ?
Le constat est toujours le même. Quand on en parle autour de nous, pas sûr, mais malgré tout, quand on voit les ventes, on se dit que si, malheureusement.
D'accord. Eh ben, tu parles de ventes, est-ce qu'on peut évoquer les tirages ? Est-ce qu'on peut savoir si ce trimestriel Blues Magazine se vend à plusieurs centaines, ou plusieurs milliers, ou plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires ?
En fait, nous, on est depuis un certain temps, d'ailleurs depuis un certain nombre de numéros publiés en kiosque sur le réseau national français via les MLP,
voilà.
Et on est tiré en fait à 12 000 exemplaires.
Hein.
Et on a aussi 1200 abonnés, c'est-à-dire des gens qui le reçoivent directement chez eux, ce qui nous permet d'avoir un public, on espère, le plus large possible.
Oui, parce qu'un seul numéro ne sert pas qu'à une personne. J'imagine que ça passe sous le manteau, on se le repasse. Et tiens, j'ai vu un article de un tel. C'est comme pour les albums, on se fait parfois... on en fait profiter les autres un petit peu, j'imagine.
Tout à fait, oui. Bon, moi, je suis aussi responsable de la distribution des CD et des DVD, donc on essaye aussi de faire connaître les gens, moi autour de moi, la famille, les amis, etc. Ça permet aussi de faire évoluer le blues et puis d'essayer de le faire découvrir au plus grand nombre.
Alors, si on décortique un petit peu ce numéro 50 avec en couverture Buddy Holly, hommage à Buddy Holly, disparu cette année à l'âge de 79 ans, hein, c'est ça ?
Oui.
Il y a quelques articles, on va dire, qu'on va qualifier d'interview. Il y a également des dossiers de fond. Alors c'est vrai que ça manque parfois cruellement dans certaines publications, ces fameux dossiers de fond où on fait plutôt de l'interview et de la chronique de disque. Et là j'ai envie de dire, Blues Magazine, au fil des numéros et depuis déjà de nombreuses années, s'est étoffé et apporte des dossiers de fond sur lesquels on peut vraiment se faire les dents si on aime lire des choses autour du blues.
Tout à fait. En fait, ce qu'on essaye de faire dans chaque magazine, c'est d'avoir au moins au minimum un dossier de fond et une saga d'un artiste. Là, je prends l'exemple sur le numéro 50, le dossier de fond, c'est sur le Texas Blues.
C'est sur le Texas
Blues. Et la saga de l'artiste, bon, effectivement, c'est sur Buddy Holly qui est disparu cette année.
Oui.
On essaye d'avoir toujours au moins un des deux, sinon les deux dossiers à chaque fois sur le magazine. Et ensuite, en fonction des actualités, certaines personnes nous demandent des interviews, ou nous, on essaye d'avoir l'interview de musiciens qui passent en France ou qui sortent un CD, par exemple.
Alors, ça fait partie des questions que je voulais te poser, effectivement. Par rapport aux interviews, bon, évidemment, l'opportunité, c'est quand même d'aller trouver les gens là où ils sont, c'est-à-dire dans les coulisses avant ou après un concert. Est-ce que ça vous est arrivé de faire des interviews par email comme ça, parce que les gens n'étaient pas sur scène en France à ce moment-là ?
Ça nous est arrivé. On essaye le minimum d'en faire parce que, en fait, nous, on a l'habitude d'interviewer les artistes en direct et c'est plus facile de rebondir sur une question plutôt que par un email. Les dossiers sont préparés, les questions sont préparées, mais les gens répondent du tac au tac à la question. On ne peut pas forcément rebondir. Donc on préférerait les interviews en direct.
Oui, oui. Et donc, c'est vrai qu'il y a des avantages aux deux. Enfin, à mon avis, je vais donner mon avis aussi, André. C'est vrai que l'interview par email perd la spontanéité de la conversation, quoi qu'on peut toujours s'en envoyer 10 pour finalement compléter une question. Ça peut devenir laborieux, on est bien d'accord. Par contre, c'est vrai, quand on est en face de la personne, comme là, je suis en train de te parler tout à fait en direct, on peut se dire qu'à la fin de l'interview, je vais avoir oublié la question à poser, et puis on se dit, zut, comment revenir là-dessus? C'est pas possible, c'est du direct, quoi. Donc, voilà.
Je dirais, je vais te couper, c'est l'avantage de l'avoir en direct, c'est-à-dire que quand on a oublié une question, ça m'est arrivé notamment pour une photographe que j'ai interviewée, qui est dans le numéro 439, qui s'appelle
Patricia Delgado.
Voilà. J'avais oublié deux questions, je lui ai envoyé par mail les questions, elle m'a répondu sans aucun problème.
Voilà, donc ça veut dire qu'on peut également panacher avec ce type de média qui est Internet, sur lequel je ne sais pas comment on pourrait travailler. Je ne me rappelle plus comment on faisait avant, franchement. Alors, pour revenir à Blues Magazine, donc on parlait dossier de Texas Blues, couverture Body de lait, puis quelques interviews dans ce numéro 50, Calvin Russell, Dom SD, Mississippi Heat, Carolina Chocolate Drop, DBT et John Schoeteler. Autrement dit, des gens soit issus de la scène française, soit internationale, John Schoeteler étant anglaise, les autres étant américains, Dom SD n'étant pas un musicien, mais un graphiste, hein, c'est bien ça?
Tout à fait. Oui.
Donc, est-ce qu'on a un peu l'échantillon du type d'interviews qui peuvent figurer dans Blues Magazine? Ou est-ce qu'il y a encore d'autres types de personnes, de par leur fonction, qui seraient susceptibles d'interviews?
On essaye d'élargir au maximum les interviews en fonction de l'actualité.
Ouais.
Je te prends l'exemple de Edouard MSD, qui est un graphiste, en fait, que l'on avait rencontré. On peut parler aussi de photographes, je dirais d'attachés de presse. À une époque, on avait interviewé Sophie Louvet il y a très longtemps. Tout dépend de l'actualité et puis des possibilités que l'on a de faire les interviews. En général, on aime beaucoup les musiciens parce que c'est eux qui font la scène blues, hein. Mais on a aussi beaucoup de possibilités. Je te prends aussi l'exemple, j'avais interviewé il y a quelques temps Philippe Langlois, le fondateur du label Dixie Frog.
Oui, voilà.
Donc, également tout est possible. Hein.
Les patrons de label, créateurs de label, tout à fait. On est là également pour ça, surtout, hein, pour parler de Blues Magazine, mais on va parler également de tes goûts musicaux parce qu'ils transpirent dans tes chroniques, André. Tu me disais tout à l'heure en antenne que tu avais été introduit au blues par un garçon qui s'appelle Johnny Winter il y a déjà quelques années.
Ah oui, tout à fait, c'est assez vieux en fait, et par un disque particulièrement qui s'appelle Nothing But The Blues, qui était en fait un disque de Johnny Winter, mais avec le regretté Muddy Waters.
Voilà, un disque, je me souviens de la pochette, c'était tout blanc autour, il était en train de fumer une cigarette avec un chapeau là.
Et avec une dobro.
Et avec un dobro, effectivement. Nothing But The Blues, ça date d'au moins 30 ans cet album.
Ça doit être de 73-74, je crois.
Tu l'as écouté à l'époque de sa sortie, non? Ou un peu plus tard?
Plus tard.
Donc André Perronnet, tu interviens dans Blues Magazine depuis plusieurs années. Tu n'es pas à l'origine de la fondation, mais tu es quand même bien au fait de l'historique du magazine. Un magazine qui s'est étoffé au fil des années. Enfin, moi, je possède le numéro 1 et je peux voir, comparé avec le numéro 50, ça n'a plus rien à voir. Je ne parle pas seulement du contenu, mais également de la forme. Il y a eu un changement de format, il y a eu un dos carré. Enfin,
je peux t'en parler un petit peu.
Vas-y, justement.
En fait, le numéro 1 est sorti en fait le 15 juin 96. On savait déjà à l'époque qu'on allait en faire plusieurs, puisqu'on avait lancé dès le numéro 1 des abonnements pour un trimestriel. Donc le prix était de 100 francs en frais de port inclus, et ce prix aujourd'hui n'a pas changé, il est toujours de 16 euros pour 4 numéros, toujours frais de port inclus.
D'accord.
Le numéro 1, quand il est sorti en couverture, c'était Bernard Allison, avec 32 pages. C'était uniquement une distribution de réseau privé, et puis il était entièrement noir et blanc, bien sûr.
Et de 32 pages, on a triplé, puisqu'on est arrivé à 100 pages.
On est arrivé à 100 pages, mais entre les deux, en fait, on a eu le numéro 8 qui est sorti, qui est devenu 54 pages avec une couverture quadri. On a ensuite le numéro 27 qui est sorti en 64 pages, toujours avec une couverture quadri, mais toujours en réseau privé. Et en fait, depuis le numéro 36, on est en distribution kiosque Paris en 74 pages, couverture quadri.
D'accord.
Et c'est à partir du numéro 40, hein, avec une couverture un peu différente. On est sorti en tout quadri, mais en couverture noir et blanc. En fait, l'explication, c'était que c'était pour nos 10 ans. Et on avait réussi à voir le frère de Rory Gallagher, qui nous avait offert en fait la photo de couverture. Et ça, c'est un très bon souvenir.
D'accord. Et donc, effectivement, maintenant, on retrouve Blues Magazine. Alors, dans les kiosques, bon, on va pas dire dans tous les kiosques, hein, c'est pas vrai, mais dans un kiosque sur 6, à peu près, comme pour
Quand même un certain nombre de points de vente qui sont de l'ordre de 3500 à peu près sur tout le réseau national.
D'accord, 3500. Je sais qu'au départ, Blues Magazine était distribué en kiosque, mais uniquement en région parisienne, hein, c'est ça? Et par la suite, ça s'est
étonné. Dès le numéro 40, en fait, on est devenu en réseau national.
Voilà.
On est sorti en numéro, je dirais, région parisienne à 6000 exemplaires, et à l'heure actuelle, on est tiré à 12000 exemplaires en réseau national.
Très bien. Est-ce que c'est important pour un magazine de blues ou un magazine musical d'une manière générale, comme Blues Magazine, de paraître en kiosque? Est-ce que c'est forcément obligatoire? Est-ce que c'est...
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est en fait une association, donc c'est clair que tous les gens travaillant dans le magazine sont des bénévoles.
Oui.
Et on ne vit que de la vente de notre magazine, entre guillemets, vivre, c'est-à-dire qu'on rentabilise pas l'affaire.
Et des encarts pubs quand même, il y a quelques encarts publicités.
Oui. Voilà, tout à fait. Mmh. Oui. Mais ça nous permet en fait d'assouvir une passion de tous les gens qui travaillent dans le magazine et aussi d'essayer de faire connaître le blues au plus grand nombre. Le but, c'est ça.
Le but, c'est ça. C'est faire connaître le blues au plus grand nombre et puis l'amener jusqu'à les kiosques à côté des magazines télé, féminins, tout ce qu'on veut.
Oui, ou les autres magazines style rock and folk, guitariste, etc. Quoi, ou jazzman.
Voilà. Si on parle du fond, là, encore une fois, quels sont, on va dire, je ne sais pas si ça te concerne toi ou si ça concerne tes collègues, amis de Blues Magazine, l'interview, on va dire, le plus gros coup hein, dont vous seriez le plus fier au fil des années, comme ça à brûle-pourpoint.
Je dirais qu'il y en a. Celui qu'on a loupé le plus et qu'on regrette, c'est Gary Moore, qu'on aurait bien voulu avoir en direct et qu'on n'avait eu que par mail.
Ouais.
Là, c'est pas un scoop, mais malheureusement, il n'a jamais voulu. Je dirais les plus gros coups français qu'on a fait, ça peut être Jean-Jacques Milteau le tout dernier, ou Paul Personne, qui était vraiment magnifique.
Alors Jean-Jacques Milteau, c'est apparaître le.
C'est apparaître dans le prochain, dans le mais prochain, Paul Personne qui était paru dans un numéro antérieur, qui était une très belle rencontre. Les choses intéressantes qu'on a pu faire, ce sont aussi des rencontres lors des opérations Blues Caravan avec le label Roof Record, où tu as trois artistes en même temps qui tournent.
Deborah Coleman,
Sue Follet, ou Candy Ken, qui avait été remplacé récemment, ou également les New York City Blues, lorsque Papa Shubi était passé au New Morning avec Matt Smith ou Mazen Kazay, par exemple.
Quels sont les rapports de Blues Magazine avec les labels de disques? Parce que vous recevez des disques forcément. Est-ce que ce sont uniquement les labels qui vous les envoient? Ou est-ce qu'il y a aussi une démarche de la part des artistes? Est-ce que vous êtes plus souvent en train de solliciter? Ou est-ce que vous êtes davantage à ouvrir la boîte aux lettres et à crouler sous les, les enveloppes, quoi? Je sais pas.
Ben, c'est un condensé des deux, en fait. Il faut savoir que sur certains labels... On a aucun problème. Sur d'autres labels, il faut aller chercher. Et puis il y a des fois, il y a des artistes qui sortent où malheureusement on passe à côté, ça arrive, hein, parce qu'on n'est pas non plus tout le temps accroché malgré tout à l'internet, parce qu'en fait le but pour nous c'est de ne pas louper les grosses sorties. Bon, ça nous est arrivé une fois d'en louper une, mais bon, on essaye le plus possible d'avoir tout. Sortir et pour tout chroniquer.
Est-ce
et
que puis, tout est vraiment chroniqué dans les pages CD à la Tentation de Blues Magazine? Vous ne recevez pas encore plus d'albums?
Non, alors on reçoit tout. Il y a des fois ce qui n'est pas du tout blues et qui n'a aucun rapport avec le blues, on le zappe. Parce que effectivement, ça n'a vraiment aucun rapport. Mais par contre, ce qui étend des fois vers le jazz ou vers le rock, carrément, là, effectivement, on le passe.
Comme par exemple, tout à l'heure, on va écouter du Corbillard, qui fait partie de tes choix. En fait, il y a plusieurs spécificités au magazine Blues Magazine. On va pouvoir les décliner tout à l'heure. Je pense par exemple à l'offre de CD. Hein, pour quand on veut s'abonner, quand on est nouvel abonné, on a un album. Hein. On a parfois le choix entre plusieurs. Là, pour le numéro 50, si vous décidez de commencer votre abonnement maintenant, ça sera soit l'abonnement des Shaggy Dogs, l'album des Shaggy Dogs, No Covers, ou l'album de DBT qui s'appelle Urban Blues. Comment ça se passe? Vous recevez 10, 20, 40 albums? C'est spontané? C'est vous qui allez vers les artistes ou c'est eux qui disent
tiens? Il y a plusieurs solutions. Alors soit, par exemple, quand c'est pour un label, pour Dixie Frog, on discute avec Philippe Langlois du CD qu'on va choisir.
Ouais.
Et bon, il nous les offre sans aucun problème. Ensuite, les artistes qui sont autodistribués comme DBT, par exemple, eux, ils viennent nous chercher en nous demandant si c'était possible. Donc, on est prêt à aider les gens sans aucun problème. Hein. Je veux dire, En plus, DVT, je ne sais pas si tu connais, Daniel Blantrio, c'est un...
Daniel Blantrio, bien sûr.
C'est un artiste qui tourne depuis des années et qui manque de reconnaissance, je trouve, par rapport à ce qu'il fait.
Oui, parce qu'il chante en français, et ça gêne certains.
Peut-être.
Ah ben, j'en suis sûr. Il y a plein de gens qui m'ont dit, bah, écoute, sa musique, j'aime bien, mais par contre, je chante en français, j'accroche pas. Enfin, ça, c'est affaire de goût. Hein. On peut en débattre à l'infini. Blues Magazine, qui donc est en association, c'est bien ça, avec des membres
Oui, tout à fait. En fait, on est vraiment une association qui s'appelle Blues ETC, et on a, à l'heure actuelle, 135 membres. Ce sont des gens qui participent, en fait, à la continuité du magazine. Hein. Et puis, dans un même
135
temps...
membres, ouais. ça mérite d'être souligné, c'est quand même pas rien.
Tout à fait. Dans le même temps, je voudrais te parler un petit peu de ce que l'on fait aussi en dehors de d'éditer en fait un magazine.
Oui.
On a une des participations à tout ce qui puisse exister dans le blues et tout ce que le blues a besoin. Donc on a une participation par exemple à l'extension du Delta Blues Museum de Clarksdale.
Oui.
C'est-à-dire qu'on les aide financièrement de temps en temps, on leur amène aussi des magazines, on leur amène des artistes, on essaye de faire différentes choses. On participe à la fondation Music Maker.
Music Maker, oui, ça c'est vrai que rien qu'en allant sur le site internet dont on va donner l'adresse tout à l'heure, on s'aperçoit qu'il y a des encarts Music Maker un petit peu partout, c'est très très bien.
Voilà, tout à fait. On participe également en partenariat avec certains festivals, notamment le Grésil Vaudan depuis sa création.
Oui.
C'est 10e édition 2009.
C'est un festival,
festival de blues sur scène depuis sa création, 10 ans cette année aussi.
Mm-hmm.
Et puis le festival Aulnay All Blues qui va démarrer là au 15 novembre, qui est la 2e édition.
Et Blues Magazine est également présent dans le jury du tremplin.
Tout à fait.
Voilà, c'est quelque chose qu'il faut souligner. Il y a quelques autres spécificités que moi j'ai relevées vraiment dans, que ce soit dans ce numéro 50 ou dans les précédents, outre le fait qu'on a un CD en s'abonnant, bon, mais ça c'est pas tout le monde qui le fait. Il y a d'autres rubriques que ne font pas les autres, comme par exemple Surfing Blues. Tu peux nous en parler en quelques mots?
Ah oui, tout à fait. Surfing Blues est en rapport, en général on essaye de le mettre en rapport avec les articles que l'on a. Ce sont des sites internet que l'on trouve et qui parlent de la musique bleue en général. Et lorsqu'on a une saga, par exemple, sur un artiste comme Gary Moore, Jean-Marc Pochot, qui traite la rubrique sur Film Blues, trouve tous les sites internet qui parlent, par exemple, de l'artiste.
Voilà.
En général, c'est basé sur le contenu du magazine.
Et donc, dans le nouveau numéro 50, on retrouve quelques liens vers YouTube, on retrouve quelques vidéos sur lesquelles on peut admirer Body Delay. On parle également de la Gazette de Greenwood, hein, c'est le genre de choses qui fait bien plaisir quand on est membre de la Gazette de Greenwood. Hein, et c'est vrai qu'il y a eu, depuis tous ces numéros, parce que ça fait un bon moment que Jean-Marc Pochot s'occupe de cette rubrique,
oui.
Il y a eu un bon panel de ce qui se passe sur la toile en matière de blues.
Tout à fait.
Il y a d'autres spécificités, comme par exemple la musique pour musiciens, c'est-à-dire qu'il y a maintenant trois artistes qui s'occupent d'animer des rubriques, l'un autour de l'harmonica, l'autre autour de la guitare et l'autre autour de la batterie.
Tout à fait. Je prends par exemple l'harmonica de Greg. Bon, Greg Slap en raccourci, qui est en fait Greg Slapinski, qui est l'harmoniciste qui vient de sortir un CD très très intéressant sur le cinéma, et qui est accessoirement l'harmoniciste de Johnny Hallyday. Donc il nous fait ça depuis le début.
Ouais.
On a ensuite François Quinsac, lui qui est un guitariste, qui nous fait aussi la même chose, et puis Eric Thiévon, batteur.
Voilà, Eric Thiévon qui officie entre autres au sein du A Project avec Thierry Anquetil, notre Thierry Anquetil normand, cocorico. Eric Thiévon, très sympathique batteur et très très talentueux, qui est endorsé Pearl, je crois, c'est ça?
Oui, c'est ça, tout à fait.
Voilà.
On a aussi une autre rubrique qui est très très intéressante, qui concerne la lettre et l'esprit de Patrice Gandois, en fait,
ouais.
Qui analyse une chanson. Là, je prends l'exemple du numéro 50, qui est une chanson d'Oling Love, King Floor, qui est très très connue, et qui donc la traduit et explique la naissance de cette chanson, en fait.
Donc, ce qui est intéressant pour les non-anglophones, et Dieu sait s'il y en a, même parmi les amateurs de blues. Et puis, je voudrais terminer avec une rubrique qui n'existe nulle part ailleurs, et qui est le fruit d'un garçon que je connais un petit peu, qui s'appelle Henri Mailloux, qui chronique des albums, qui avait collaboré à d'autres magazines, d'ailleurs, par le passé. Et donc, c'est le coin du Blue Mailloux. Alors, pourquoi est-ce que ces chroniques sont toujours... chronique d'album, hein, toujours. Pourquoi est-ce qu'on sont toujours séparés du reste des chroniques de disques?
Alors c'est un petit peu plus élaboré, parce qu'en fait Henri Mailloux recherche des rééditions de CD, mais d'artistes soit disparus, soit d'anciens CD. Il est plus spécialisé dans cet esprit-là.
D'accord.
Et je dirais que c'est pour ça qu'on le met un peu à part, parce qu'en fait les gens recherchant l'ancienneté trouve en fait tout ce qu'ils veulent à ce niveau-là. C'est ce que j'ai... qu'à la limite, quand on prenne les chroniques CD, on a par exemple des sagas de réédition carrément de gros titres qui sont mises aussi là-dedans.
Et donc ce que dit en exergue, comme vous le savez, les chroniques de CD de notre ami Henri Mailloux ne sont pas forcément d'actualité. Il y en a pour tous les goûts, il vous décrit ses sentiments et pense qu'assurément vous devriez posséder ces galettes dans votre discothèque.
Voilà.
Ses notations n'engagent que lui, mais nous pouvons lui faire confiance, il est sûr qu'il est de bons conseils. Voilà ce que t'écris.
Voilà.
Et effectivement, dans le dernier chronique, Rod Piazza, David Liederham, Sam Carr, Rick Allen, et puis Battle of Hastings Street chez Ace Records. Voilà des choses, des rééditions également, des albums un petit peu plus récent, mais un petit peu en dehors de l'actualité, on va dire.
Tout à fait.
Est-ce qu'on peut parler en deux mots, avant d'en terminer, André, sur le site internet de Blues Magazine, qui est très très fourni, hein, sur lequel on trouve beaucoup de renseignements, notamment, je dois t'avouer que j'y pêche pas mal de dates de concert.
Hein. Ah oui, tout à fait. Bah, ça, c'est une de notre fierté, en fait, d'avoir créé le site pratiquement en même temps, donc depuis 1995.
Alors, il faut rendre hommage à Claude Jandin, notamment.
Claude Jandin et Bernard Monod.
Et Bernard Monod.
En fait, responsable du site internet, hein, qui était hébergé au début sur migal.org, qui était gratuit. En fait, il est devenu après bluesmagazine.net en 2000 chez un hébergeur payant. Et effectivement, je pense la page la plus lue est celle des concerts, qui est remise à jour journellement.
D'accord. Eh bien écoute, ça c'est du boulot, hein, je peux te dire, je connais un tout petit rayon, mais j'imagine que là, de façon à être tout à fait complet par rapport à ce qui se passe dans le blues en France et également à l'étranger, puisqu'on annonce des dates en Suisse, en Belgique, etc., c'est du taf, hein, on est bien d'accord.
André, je peux juste préciser que vous pouvez trouver en fait sur le site Blues Magazine tous les points de vente du magazine.
D'accord.
C'est important, que vous habitiez l'Oise, l'Orne, la Haute-Savoie ou la Bretagne, et également vous pouvez retrouver toutes les chroniques de CD qui sont mises à jour, je pense, à peu près 2 numéros après la sortie.
Donc on va donner l'adresse du site internet, André, si tu l'as.
C'est http://www.bluesmagazine.net.
Il n'y a pas de tiret ni de point entre blues et magazine, c'est dans
son
mot.
Tout à fait, mais si vous tapez blues magazine sur Google, c'est le premier site qui sort.
D'accord.
C'est aussi notre fierté, on est les premiers.
Très bien. André, il reste à te remercier. On va rappeler les deux tarifs, hein, celui au numéro et celui de l'abonnement d'un an et de deux ans.
Mm-hmm.
Hein, 5 euros le numéro, je crois que on est dans la moyenne, hein, dans tous les magazines trimestriels.
Tout à fait.
16 euros pour un an, 30 euros pour deux ans, avec un CD gratuit à l'abonnement. Voilà.
Tout à fait.
Est-ce qu'il te reste quelque chose à dire, André, par rapport à ce qu'on aurait oublié de dire autour de Blues Magazine ?
Non, simplement déjà te remercier de t'être intéressé à nous.
Ben, je t'en prie, c'est tout à fait normal.
Et puis après que le blues vive le plus longtemps possible. C'est l'essence même de la musique.
Merci pour cette sage parole, André. André Perronnet avec nous dans Sweet Home Chicago. On va écouter un album qui t'a bien fait vibrer aussi ce trimestre. C'est le dernier album de Jean-Jacques Milteau. Ça tombe bien parce que je l'aurai au téléphone d'ici 20-25 minutes. On va écouter un extrait de ce Soul Conversation avec un titre que tu as choisi, André, qui s'appelle
Wish.
Voilà, c'est le morceau d'introduction.
Et tu souhaiteras le bonjour à Jean-Jacques Milteau, que j'ai interviewé il y a moins d'un mois.
Très bien, mais je n'y manquerai pas. Jean-Jacques Milteau qui figurera donc au sommaire du prochain Blues Magazine numéro 51.
Tout à fait.
Merci André, à très bientôt.
Merci à toi.
Et bonne route à Blues Mag. Au revoir.
Merci, au revoir.